Bonjour, bonjour à tous. Le président turc Erdogan demande le gel des avoirs en Turquie des ministres américains. Il avait promis de riposter face à une mesure similaire de Washington. Les rapports sont tendus entre les deux pays. Alexandre Billette nous donnera des précisions dès le début de ce journal. Jean-Pierre Bemba, acclamé par des milliers de personnes dans son fief en République démocratique du Congo. L'opposant au président en exercice a même eu du mal à sortir de son avion. Vous entendrez le reportage de Passion Ligodi. Lula en prison et pourtant candidat à la présidentielle au Brésil. Rien de certain encore, les noms des principaux prétendants au poste devraient être annoncés dans la soirée. Mais ce qui est sûr, c'est que cette élection, tout pourra se passer dedans. Un des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim est à l'arrêt, conséquence directe de la canicule qui touche le pays. Pour la porte-parole de l'association Sortir du nucléaire, cela est une preuve de plus de la fragilité de cette énergie. Nouveau chapitre dans la crise diplomatique entre Washington et Ankara. La Turquie avait promis de répliquer rapidement aux sanctions américaines. Jeudi, les États-Unis ont gelé les avoirs de deux ministres turcs pour protester contre le maintien en détention d'un pasteur américain en Turquie. Il est accusé de terrorisme et d'espionnage. Le président Recep Tayyip Erdogan n'a effectivement pas traîné. Sa réponse ne s'est pas fait attendre. Depuis Istanbul, Alexandre Billette.
Les chefs de la diplomatie turque et américain se sont rencontrés hier à Singapour pour évoquer à nouveau le dossier du pasteur Andrew Brunson, mais sans parvenir à résoudre la crise malgré les politesses diplomatiques de circonstance. Recep Tayyip Erdogan attendait probablement l'issue de cette discussion avant de s'exprimer. Il l'a fait finalement ce matin devant le congrès des femmes de son parti à Ankara.
Nous sommes restés calmes jusqu'à hier soir, mais maintenant, moi aussi, j'ai donné des instructions à mes amis. Les avoirs en Turquie des ministres américains de la justice et de l'intérieur seront saisis s'ils en ont. On ne peut pas faire la leçon à la Turquie de cette façon. Leur approche, c'est seulement une manifestation de leur évangélisme et de leur sionisme. Voilà ce que c'est.
C'est la première fois que de telles sanctions réciproques sont adoptées par deux alliés de l'OTAN. Une rupture historique, titrait même le quotidien d'opposition Cumhuriyet. Et dans cette crise avec Washington, Recep Tayyip Erdogan bénéficie d'un large soutien jusqu'au sein de l'opposition. Et certains demandent même que les sanctions soient élargies, qu'elles visent notamment des contrats signés entre des entreprises américaines et turques. Mais cette crise risque de coûter très cher à l'économie turque, déjà affaiblie par la réaction très négative des marchés depuis l'annonce des sanctions américaines.
La correspondance d'Alexandre Billette à Istanbul et d'autres sujets contribuent à tendre les rapports entre Ankara et Washington. La Turquie reproche notamment aux États-Unis son soutien à une milice kurde en Syrie, ainsi que son refus d'extrader le prédicateur Fethullah Gulen. Le président Erdogan le désigne comme le cerveau du putsch avorté de juillet 2016. En Grèce, le ministre adjoint à la protection civile avait donné sa démission dès les premiers morts dans les violents incendies de la semaine dernière. Démission qui n'a pas été acceptée par Alexis Tsipras. Le premier ministre grec s'était justifié en plaidant une situation d'urgence. Mais cette fois, Alexis Tsipras a cédé. La pression mise par ses opposants est trop forte. Ils exigeaient que des têtes tombent. Le premier ministre a donc finalement accepté la démission du ministre adjoint à la protection civile, Linos Toskas, à Athènes, Angélique Coronis.
Le ministre adjoint à la protection civile, Nikos Toskas, était dans l'œil du cyclone pour avoir notamment déclaré dans un entretien télévisé que toutes les opérations de secours avaient été correctement menées, mais que devant de tels phénomènes extrêmes, il n'avait pas été possible d'éviter la tragédie. Ses pouvoirs de la protection civile sont transférés au ministre de l'Intérieur, Panos Kourletis. Pour tenter de calmer la colère qui ne cesse de monter, Alexis Tsipras a fait voter un plan d'urgence pour faire face, je cite, aux distorsions urbanistiques. 1500 maisons illégales soit bâties à l'intérieur des forêts, soit bloquant l'accès à la mer, devraient être détruites dans les prochains jours sur les plus d'1,5 million qui existent dans tout le pays. Pour les proches des victimes, cela ne suffit pas. Deux familles ont porté plainte contre les autorités pour négligence et mise en danger de la vie d'autrui.
Angélique Kourounis depuis Athènes. Jean-Pierre Bemba de retour dans son fief de Guémena en République démocratique du Congo. L'opposant au président Kabila revient au pays après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale le 8 juin dernier. Il a été jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Jean-Pierre Bemba doit se recueillir sur la tombe de son père avant de quitter la ville demain. Plusieurs milliers de personnes avaient fait le déplacement pour l'accueillir. Reportage de Passion Ligodi.
8h heure locale, les rues des Guémena vibrent au rythme des klaxons. Plusieurs centaines des militants du mouvement des libérations du Congo MLC se dirigent vers l'aéroport. Sur place, plusieurs regroupements politiques de l'opposition ont fait le déplacement, dont l'UNC de Vital Kamerhe et Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Rapidement, la police est débordée, les militants envahissent même les tarmacs, ils sont repoussés jusqu'à environ 5 mètres de l'endroit où l'avion va se poser. Entre-temps, fanfares, chants et danses traditionnelles occupent les milliers de personnes qui ont fait le déplacement. 10h30, l'avion atterrit Saint-Déliès, Demba ne parvient pas à sortir, les militants entourent l'avion, les pilotes sortent et font signe aux militants sans succès. Eve Bazaïba, secrétaire général du MLC, tente mais ne parvient pas. Finalement, au bout d'une demi-heure de bousculade, Demba sort, salue ses militants et se dirige avec sa famille à sa résidence accompagnée d'une foule nombreuse. Pour Eve Bazaïba, c'est un rêve qui s'accomplit.
La population qui est venue accueillir Nombre, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps. La population attendait, nous tous nous attendions et ce sont des émotions.
Demba va s'incliner ensuite devant la tombe de son père avant de quitter Guémena.
Patient Ligaudi de RFI pour France Culture. Et avant-hier, Jean-Pierre Bemba a déposé sa candidature à la présidentielle du 23 décembre prochain. Tandis que le président Kabila, qui ne peut pas se représenter, laisse toujours planer le doute sur le candidat qu'il choisira. Il a jusqu'à mercredi pour l'annoncer. Une vingtaine d'opposants devant la justice au Zimbabwe. Ils ont été arrêtés au siège de leur parti hier après la victoire contestée du président sortant Emmerson Mnangagwa. Celui-ci a appelé à l'apaisement et ce dans l'espoir de tourner la page de l'ère Mugabe. La situation avait dégénéré après le vote de mercredi. La police et l'armée ont réprimé une manifestation de l'opposition. Au moins 6 personnes sont mortes. La campagne présidentielle officielle n'a pas encore commencé au Brésil à 2 mois des élections et tous les candidats ont jusqu'à demain soir pour se déclarer. Mais si les noms des principaux candidats vont être officialisés dans la soirée, comme celui de Lula, l'ancien président, qui est aujourd'hui en prison, le climat est délétère. Ce scrutin s'annonce comme le plus incertain de cette récente démocratie. À Rio, Jean-Mathieu Albertini.
En prison, Lula ne va pas pouvoir apparaître sur scène alors que la convention du Parti des travailleurs vient de commencer à São Paulo. Sans surprise, l'ex-président va être désigné comme le candidat du parti dans le courant de la journée. Largement en tête des sondages avec 33% des voix, la justice électorale devrait pourtant, dans les semaines à venir, annuler sa candidature à cause de sa condamnation pour corruption. Le PT espère à ce moment-là réussir à transférer les votes en faveur de Lula vers un autre candidat. Une partie de ses électeurs devrait suivre, mais il est difficile de savoir combien le parti se garde pour le moment d'annoncer son vice-président, car il n'exclut pas de nommer Ciro Gomes, dont la candidature a été étouffée par les manœuvres habiles de Lula. Mais ce n'est pas la seule bizarrerie de cette élection. Geraldo Alckmin, le candidat du PSDB, le parti de droite qui affronte depuis 30 ans le PT au deuxième tour en duel, ne passe pas les 6%, même s'il a réussi de belles manœuvres politiques dernièrement. Rien ne garantit que sa candidature ne décolle réellement. Venu bouleverser l'hégémonie des deux partis, Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, deuxième des sondages, n'a après 3 tentatives toujours pas réussi à trouver de vice-président. Hier invité à un débat, le candidat a une nouvelle fois brillé par sa capacité à ne pas répondre aux questions et à passer du coq à l'âne sans réel lien logique avec ce type de performance. Pas sûr qu'il arrive à convaincre au-delà de ses 17% d'intention de vote.
Jean-Mathieu Albertini à Rio, au Brésil. 8 ans après avoir quitté la Chine avec fracas, Google pourrait bien y faire son grand retour. C'est une information du site d'investigation The Intercept. Le lancement est prévu d'ici 6 à 9 mois. Mais ce ne sera absolument pas le même moteur de recherche que nous utilisons ici en France. Il est actuellement en cours d'élaboration. Et ce Google serait conforme aux exigences du gouvernement chinois. Elia Bergel, bonsoir.
Bonsoir Lucas, bonsoir à tous.
Cette version du moteur de recherche, en fait, est tout simplement une version censurée.
Imaginez Lucas que vous êtes chinois, vous faites une recherche Google avec le mot Tiananmen, et bien vous tomberez sur des articles traitant du mausolée de Mao Zedong et certainement pas du massacre des étudiants qui s'est tenu place Tiananmen en 1989. C'est comme ça que doit fonctionner le projet Dragonfly ou Libellule en français. C'est le nom de code du moteur de recherche que Google veut lancer en Chine 8 ans après avoir quitté le pays. La censure et le contrôle du gouvernement chinois sont pourtant les raisons qui ont motivé le départ de l'entreprise en 2010. Mais son nouveau patron, Sundar Pichai, ne fait pas de mystère. Le marché chinois et surtout ses 772 millions d'internautes ne doit pas être négligé par sa firme. Alors pour préparer le terrain, Google a investi début 2018 dans un laboratoire d'intelligence artificielle à Pékin. En juin, le géant du net a injecté $550 millions dans le numéro 2 chinois du commerce en ligne. Mais ces envies d'expansion passent mal auprès des ONG et des défenses de droits de l'homme. L'arrivée de Google reviendrait, selon elle, à cautionner les agissements du régime liberticide au pouvoir. Mais surtout, les dirigeants de l'entreprise doivent faire face à une fronde de leurs employés. Ils seraient très nombreux à s'opposer au retour de Google en Chine pour des raisons d'éthique. Après les premières fuites dans la presse, l'entreprise a d'ailleurs dû fermer les accès des employés au projet Dragonfly.
Merci beaucoup Elia Bergel pour ces précisions. L'administration Trump doit retrouver les parents séparés des enfants migrants. Un juge fédéral américain a martelé que si 500 mineurs sont encore seuls, c'est à cause de la politique tolérance zéro de Donald Trump. Dara Sabro dénonce la réalité et que pour chaque parent que l'on ne localisera pas, un enfant deviendra orphelin et c'est à 100% la responsabilité de l'administration Trump. Il avait déjà ordonné il y a plus d'un mois de rassembler ses familles. Au moins 500 personnes dans la rue à Nantes cet après-midi pour une manifestation en soutien aux migrants. Jeudi, déjà, les associations d'aide ont manifesté après l'expulsion le matin même de près de 300 migrants d'un ancien lycée qui doit être transformé en école primaire. Une évacuation demandée par la mairie qui souhaite commencer les travaux de désamiantage des bâtiments. Les migrants se trouvaient là depuis 10 jours. Les associations ont déploré qu'aucune solution de relogement n'ait été proposée. 500 témoignages de femmes harcelées, 10 000 visites, et ce, en seulement 2 jours. Voilà ce qu'a recueilli la plateforme noustoutharcèlement.com. Ce site internet a été créé par Marie Laguerre, une jeune femme de 22 ans qui a été agressée dans la rue la semaine dernière alors qu'elle répondait à un homme qui l'harcelait. Tous les témoignages collectés sont publiés sur la page Facebook au nom de la plateforme. La canicule qui touche 67 départements ne fatigue pas que les humains. Les centrales nucléaires françaises sont également en surchauffe. EDF a annoncé aujourd'hui l'arrêt temporaire d'un des réacteurs de la centrale de Fessenheim. La hausse des températures a entraîné une augmentation des eaux du Grand Canal de l'Alsace qui sert à la centrale. Il s'agit de respecter les autorisations de rejet thermique dans le canal. Une fermeture certes temporaire, mais qui montre bien la vulnérabilité des centrales françaises pour Charlotte Mijon, porte-parole de Sortir du Nucléaire.
Bien que l'industrie nucléaire aime à se présenter comme la solution face au réchauffement climatique, en réalité, le nucléaire est une technologie qui est extrêmement vulnérable aux fortes chaleurs qui, on le sait malheureusement, vont se multiplier avec le réchauffement climatique. Avec Fessenheim, si on voulait éviter d'avoir ces problèmes-là, il faudrait déconstruire la centrale et remonter totalement un autre système de refroidissement, c'est-à-dire techniquement parlant, ça représenterait un défi énorme, mais ce serait une absurdité totale et un gaspillage total, surtout pour une centrale qui est normalement promise à une fermeture rapide et qui en plus a dépassé sa durée de vie initialement prévue.
Est-ce que c'est normal ça que des centrales nucléaires doivent être obligées de ralentir leur activité quand les températures sont trop élevées ?
C'est quelque chose qui arrive, qui va sans doute se reproduire de plus en plus fréquemment, en tout cas pour les centrales qui ne sont pas dotées de tours de refroidissement et qui donc prélèvent leur eau pour le refroidissement des circuits directement dans les fleuves. C'est aussi quelque chose qui va arriver avec les centrales qui sont dotées de tours de refroidissement. Si le débit des fleuves devient trop bas, si les rejets d'eau chaude mettent en danger les écosystèmes aquatiques, l'arrêt de centrales l'été, c'est quelque chose qui va être de plus en plus fréquent.
Charlotte Mijon, porte-parole de l'association Sortir du Nucléaire. Et puis 3 autres centrales sont à l'arrêt à cause de la canicule en France aujourd'hui, dans l'Ain et en Isère. Enfin, la météo de cette soirée, il fera encore chaud, 31 en Ile-de-France, 33 dans le Grand Est ou encore 25 dans les Hauts-de-France. Quelques orages sont également attendus sur l'est du pays, de la Drôme à la Haute-Savoie, excepté de la Bretagne au nord de la Seine où la nuit sera relativement fraîche, de 14 à 17 degrés. Il fera assez lourd jusqu'à 29 en région Occitanie, 30 en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais pour les franciliens, plus de 150 hôtels de la région parisienne leur proposent des réductions allant jusqu'à moins 50 pour venir dormir dans des chambres climatisées. C'est une information de nos confrères de France Bleu Paris. Demain, le temps sera caniculaire sur une grande partie du pays, parfois orageux en montagne, notamment sur les Alpes. La vigilance orange pour la canicule sera maintenue sur les 67 départements.